Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, la liturgie nous donne de méditer, de contempler une résurrection. Vous savez, il y en a trois, en dehors de celle du Christ, notre Seigneur. Il y en a trois dans l'Évangile. Il y a celle, la fille de Jaïr, il y a Lazare et il y a ce jeune homme dont on ne connaît pas le nom et le nom de sa mère non plus. On sait qu'elle vient de la ville de Naïm. Trois résurrections donc importantes qui mettent l'accent sur la vie. Le Seigneur est le maître de la vie. Alors évidemment, vous le savez, ça n'a rien à voir avec sa propre résurrection puisque ces trois personnes vont de la vie passer à la mort et revenir à cette vie jusqu'à une autre fin. Ils connaîtront de nouveau la mort. Alors que notre Seigneur, lui, de la vie, a connu la mort. Il est passé à travers, il a brisé la mort, il l'a détruite et il a introduit son corps qui pourtant a connu la mort dans l'éternité bienheureuse où il a toujours été. Voilà, c'était un petit rappel théologique. Je vous propose de voir d'abord comment ici le Seigneur est la résurrection et la vie, ce que cela signifie, et dans un deuxième temps, comment nous pouvons coopérer nous-mêmes à cette résurrection et à cette vie. Tout d'abord, le Seigneur est le maître de la résurrection, il est le maître de la vie, et les deux cortèges qui se croisent, on dirait un péplum, comme c'est raconté, ça peut s'imaginer facilement, et d'ailleurs je vous invite à imaginer votre prière. Vous le savez, saint Ignace de Loyola recommande de composer un petit tableau quand vous priez pour éviter de baguenauder et de vous évader, ce qui est malheureusement naturel. Eh bien, quand vous méditez un texte biblique, par exemple, eh bien, vous imaginez la scène. Et ici, il n'est pas difficile à se l'imaginer, à se la représenter. Il y a un cortège qui sort de la ville avec une foule nombreuse, c'est normal. Un jeune homme, une femme veuve, un fils unique, tout le malheur condensé dans ce drame humain. Et ce cortège sort de la ville et croise le cortège qui rentre dans la ville, notre Seigneur suivi de ses disciples. Et ces deux cortèges auraient pu se croiser comme malheureusement beaucoup de nos contemporains croisent le Christ sans se voir. Ils auraient pu passer comme beaucoup passent devant l'église, peut-être pas un bon exemple en train de désarmer parce que c'est quand même un cul-de-sac, mais il y a quand même beaucoup d'églises qui sont, je pense à Saint-Roch, qui est une des rues les plus passantes de Paris, rue Saint-Honoré. Et je suis étonné, je ne parle même pas des touristes, je suis étonné du nombre de personnes, de Parisiens qui sont passés des dizaines et des milliers de fois dans cette rue et qui ne sont jamais rentrés dans l'église. Or, c'est notre Seigneur qui va se placer, qui va provoquer le miracle aujourd'hui et qui va s'adresser à la femme. L'Écriture nous dit qu'il est pris de compassion. Ça arrive plusieurs fois dans l'Écriture qu'on nous dise que le Seigneur est pris jusqu'aux entrailles, c'est-à-dire que dans son cœur d'homme, le Seigneur est vraiment homme, eh bien, il éprouve de la douleur et de la compassion pour les siens. Oui, nous ne faisons pas de l'anthropomorphisme en parlant du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur a voulu se faire homme, il a voulu avoir un cœur et éprouver des sentiments, et notamment la compassion. Cette miséricorde que le Seigneur nous fait de compatir à nos douleurs, car le Seigneur est le très miséricordieux, ce qui ne veut pas dire, comme certains le croient, que miséricordieux c'est celui qui est très loin qu'on ne peut pas atteindre, c'est l'inverse. Miséricordieux veut dire que le Seigneur met son cœur à hauteur de notre propre misère. Mais il va faire plus encore ici, il va poser un geste. Et vous le savez bien, vous les chrétiens pratiquants, un geste et une parole, ce sont les prémices des sacrements qui sont ici mis en place. Alors ce geste est un peu extraordinaire parce qu'il va toucher un cercueil et que pour un juif c'est normalement impossible. Ceux qui portent le cercueil doivent se livrer à de longues prières de purification. Et le Seigneur n'a peur de rien et surtout peur d'aucune pourriture, car rien ne peut l'atteindre. Il est, lui, la vie, le bien, le bon, la pureté. Et en touchant, non seulement il n'est pas atteint par la pourriture qu'il touche, mais au contraire, il va purifier cette pourriture jusqu'à lui rendre la vie. Oui, vous le savez, dans chaque sacrement, il y a un geste très simple
et une parole très simple, tellement simple qu'elles en sont banales et qu'on oublie parfois l'extraordinaire du miracle qui s'y produit. Ne vous y habituez pas, mes bien chers frères, vous le savez, derrière le geste banal du signe de la croix, de l'imposition des mains, de l'imposition du crème, du pain et des apparences du pain et du vin, derrière tous ces gestes on ne peut plus simples, j'oubliais le baptême, de l'eau qui coule sur un visage, rien de plus banal a priori. Le Seigneur a voulu continuer de nous toucher, car il est toujours touché dans son être par ce que nous sommes. Lui, l'impassible, veut compatir, et c'est pour ça qu'il nous a laissé les sacrements, pour qu'il puisse continuer de nous toucher jusqu'à la fin du monde par le bras de ses ministres. Voilà ce qui se passe ici, mes bien chers frères. Le Seigneur non seulement commet un miracle, mais en plus il nous apprend, il nous indique ce que va être l'Église en l'établissant et en faisant lui-même déjà ce geste sacramentel. Oui, bien sûr, c'est sa parole qui produit le miracle. « Je te l'ordonne, lève-toi, dit-il au jeune homme. » Croyez-le bien, c'est la même parole éternelle qui touche chaque baptisé, chaque confirmé, chaque communié, jusqu'aujourd'hui. Et tout à l'heure, les prêtres, en vous donnant le sacrement, vous rediront que ceci va vous garder pour la vie éternelle. C'est une action réelle qui se passe dans le sacrement et qui passe par la réalité justement d'un geste et d'une parole. C'était mon premier point. Le Seigneur est le maître de cette résurrection. Il est le maître de la vie. Où qu'il avance, la vie avance avec lui. Il n'y a point de ténèbres en lui, point de mort. Alors, qu'avons-nous à faire, nous, les coopérateurs? Est-ce que nous pouvons être vraiment des coopérateurs de la résurrection? N'est-ce pas osé que de dire cela? Eh bien, non. Non, nous les chrétiens, nous qui sommes christifiés, qui sommes identifiés au Christ, nous qui sommes d'autres Christ, le Christ lui-même, qui se donne au monde, eh bien, nous voulons coopérer à son œuvre pour apporter la vie. Il y a de multiples manières d'apporter la vie, je vais en voir deux. Je n'évoquerai pas la manière la plus évidente que vous pouvez mettre en œuvre, c'est d'avoir des enfants. Évidemment, c'est ainsi que l'on transmet la vie. Mais il y a aussi d'autres manières. On peut porter au sacrement et on peut corriger ses frères. Ce sont les deux points que je vais commenter. Tout d'abord, on peut porter au sacrement. On peut porter au sacrement les gens ad extra comme ad intra. D'abord ad extra. Eh bien, il faut s'inquiéter des gens qui ne sont pas baptisés. Ce n'est pas parce que nous sommes tous baptisés, que nous sommes heureux d'être baptisés et que nous jouissons de notre baptême, et on a bien raison, qu'il faut se désintéresser des gens qui ne le sont pas. Personne n'est exempt de la bonne nouvelle du Seigneur, ou devrait être exempt de cette bonne nouvelle, et tout le monde en a besoin. Alors je sais, parfois, on hésite et on se dit « Ah, ils sont pas très chrétiens, ils sont pas très catholiques, puis ils vont pas à la messe, alors est-ce que ça sert vraiment que je les incite à baptiser leurs enfants ?» Eh bien oui, ça sert. Ça sert parce qu'en le faisant, vous allez provoquer à cette foi. Ils entendront des paroles, ils recevront un catéchisme et ils seront touchés par la promesse qu'ils vont faire, l'engagement sur leur honneur, que cet enfant soit catéchisé. À défaut de recevoir une véritable éducation chrétienne, s'ils ne vont pas à la messe, eh bien, ils prennent, et les gens le prennent au sérieux, même s'ils ne vont pas à la messe souvent, et c'est parfois pour cette raison qu'ils inscrivent leurs enfants au catéchisme et que tout peut recommencer. Mais bien, chers frères, nous ne cherchons pas à faire une église de purs, nous ne sommes pas des cathares, nous sommes des chrétiens qui devons porter les sacrements dans le monde. Or, voilà, moi et les prêtres derrière moi ne peuvent pas le faire parce que nous n'avons sous la main que vous et vous êtes déjà baptisés. Alors il vous appartient d'aller nous chercher tous ceux qui manquent à notre assemblée dominicale et afin que nous les puissions baptiser. Mais les sacrements, ça ne s'arrête pas là. il faut aussi se regarder les uns les autres et même dans nos familles, car il faut encore se soucier de porter les sacrements les uns aux autres. Peut-être parmi vos connaissances proches, ou même peut-être votre famille, il y a des personnes qui ne sont pas confirmées. J'avais fait une mission il y a quelque temps dans une paroisse où voilà, j'avais demandé voilà, qui voulait être confirmé, qui ne l'était pas. Alors bien sûr, les enfants sont confirmés à un certain âge, selon une certaine procédure, etc. Et c'est très bien. Mais il faut aussi se préoccuper. Il y a des gens qui reviennent à l'église, qui n'ont pas reçu le baptême. Quelqu'un me disait à la sortie de la messe tout à l'heure que, si j'ai bien compris, il y a 120 000 baptêmes, et, je ne suis pas sûr des chiffres, 120 000 baptêmes par an et 40 000 confirmations. Donc il y a un delta, on a perdu quelque chose, voyez-vous. Eh bien, c'est des chrétiens qui ne sont pas complets, ça. C'est des chrétiens qui ne sont pas entiers, qui ne sont pas munis des sacrements de l'Église pour aller combattre et annoncer le Christ. Alors, il nous faut aller chercher ces chrétiens qui ne sont pas complets. Je me souviens de cette petite mission que j'avais faite sur la confirmation qu'une paroissienne qui, en plus, venait à la messe tous les dimanches, une sainte femme, eh bien, elle avait 97 ans, elle n'était pas confirmée. Alors, voilà, l'évêque l'a confirmée avec les autres. Eh bien, n'ayons pas peur d'amener les gens et de les amener à la confession. C'est aussi votre rôle de savoir que les sacrements essentiels puissent être reçus. Alors, c'est bien si vous vous confessez, d'ailleurs, je vous y encourage, ça c'est mon travail, mais vous, vous êtes là, c'est facile. Mais allez parler à vos amis et faites avec intelligence. Évidemment, vous n'allez pas les voir en leur disant « il faut que tu te confesses ». Bon, non, ça ne marche pas comme ça. Allez leur dire avec intelligence « Tiens, je suis allé me confesser à l'abbé machin. Il est bien, hein, il est super. Tu devrais y aller, toi. Où est-ce que tu vas te confesser, toi? Tu te confesses à qui ?» Voilà. Et hein, on se soucie des tas de choses. À la rentrée, on se soucie de savoir si on a passé de bonnes vacances, ou si on a eu du soleil, si on n'a pas eu trop chaud, si je sais pas quoi, si je sais pas quoi. Et on a raison, hein. C'est bien, il faut le faire. Mais on va pas s'arrêter là, aux choses superficielles. Il faut aller jusqu'au bout. Intéressez-vous pour savoir si vos amis, vos proches, vos enfants peut-être, vos parents se sont confessés. Hein. Ayez soin de vos âmes et ayez soin des âmes de ceux que vous aimez. Voilà, c'est une première manière de coopérer à cette résurrection, à cette vie, amener tout le monde au sacrement. Et puis il y a une deuxième manière dont je vais dire un petit mot, c'est la correction fraternelle en raison de l'épître aux Galates que vous avez entendu, magnifique épître aux Galates, où saint Paul, avec beaucoup de finesse, nous rappelle qu'il nous faut faire le bien sans nous lasser, et que ce bien passe par la correction fraternelle. Il n'emploie pas le mot, mais il dit si quelqu'un tombe, s'il fait une faute, va vite le reprendre avec douceur. Alors c'est important parce que là aussi on se soucie de tas de choses, et on a raison, on peut nourrir les gens, on peut les soigner, on peut faire, et on a raison. Mais il faut se soucier de leur âme. Si vous ne faites pas attention aux âmes de ceux que vous aimez, c'est que vous ne les aimez pas vraiment, tout simplement. Ou alors que vous n'avez pas la foi, soit l'un, soit l'autre. J'ai rappelé tout à l'heure, mais je vais le refaire, cette douloureuse expérience que j'avais faite d'avoir rencontré un jeune homme qui avait visiblement un comportement moral très déréglé. Et cela me bouleversait et j'avais du mal à lui en parler. Il n'était pas très preneur. Alors, je me suis dit, comme je rencontrais sa mère, je me suis dit, voilà quelqu'un qui s'intéresse par-dessus tout à cet homme, alors je vais en parler à sa mère, je vais lui demander son aide pour qu'elle m'aide, et voilà. Et j'ai trouvé porte close. La mère m'a dit, mais oh là là, en fait, j'avais compris qu'elle savait très bien ce qui se passait. Elle me dit, mon fils habite dans une chambre de bonne au 5e étage, hein, on a un bel appartement, très bien, super, etc. Lui, il passe par l'escalier de service et je ne veux pas savoir ce qui se passe. Quelle horreur de ne pas se soucier des fautes que commettent ceux qu'on aime. Ce n'est pas de l'outrecuidance, ce n'est pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, comme c'est en général comme ça qu'on s'excuse, c'est tout simplement de la lâcheté. Et je l'ai dit malheureusement un peu vertement à cette dame, hein, votre fils s'en va en enfer et vous l'y précédez. Et oui, il nous faut nous entraîner les uns les autres vers le ciel, vers la sainteté. Et si quelqu'un d'entre vous tombe, car tout le monde nous tombons, eh bien, il faut le relever. Si nous faisions comme ça, dans nos familles, dans l'Église, eh bien, il y aurait moins de péchés, moins de pourriture et de dégradation, comme malheureusement, on en a devant les yeux, sempiternellement, et beaucoup, ces derniers temps. si les uns les autres nous étions capables d'avoir suffisamment d'amitié et d'amour fraternel pour nous aider dans le péché, eh bien, il y en aurait moins, tout simplement. Alors, je vous donne les quatre conditions, c'est un petit vade-mecum pour la correction fraternelle, les conditions qu'il faut, parce que c'est pas si simple d'aller voir quelqu'un pour lui dire tiens, ça, ce que tu fais là, c'est pas bien. Hein, vous n'allez pas sortir de l'église fort de ma prédication et attraper le premier type que vous voyez, que vous ne connaissez pas, et lui dire ce que tu fais là n'est pas bien. Non, ça, c'est pas possible. Il vous faut d'abord une autorité pour parler à quelqu'un. Vous voyez, c'est pourquoi les parents ont autorité sur leurs enfants pour les corriger, parce qu'ils les aiment. L'autorité que vous acquérez, c'est par l'amour, c'est par la charité. Si vous aimez, si vous vous occupez, si vous soignez, si vous faites attention aux gens, vous acquérez auprès d'eux une autorité. Et même sur les gens qui vous sont plus lointains. Dans le travail, on se salue, on se dit souvent des choses ridicules et superficielles. Eh bien, quand quelqu'un fait vraiment attention à vous, vous le savez, et vous lui permettez de s'introduire dans votre intimité et de vous dire quelque chose. Alors il faut vous rapprocher de vos amis, il faut développer des trésors de charité pour avoir cette autorité et leur dire ce qui ne va pas. La deuxième condition, c'est qu'il faut le faire avec un certain art, et cet art comprendra deux vertus principales, la douceur et la discrétion. Évidemment, on n'administre pas la vérité à coups de massue. Il faut pouvoir dire les choses gentiment, doucement, même si elles sont dures dans le fond, afin qu'elles puissent être entendues. Le but n'est pas de mettre un coup, le but est de gagner le coup. Et donc il faut y aller avec une grande douceur et puis discrétion. Évidemment, cela doit se passer seul à seul, à part, on ne prend pas quelqu'un au milieu de la foule pour lui dire « ça, c'est pas bien ». On le parle parce qu'on ne le prend pas pour le mettre à mort, on le prend pour qu'il s'amende. Enfin, deux dernières conditions. La première, c'est de s'examiner soi-même, parce que si vous voyez un péché chez quelqu'un, si vous voulez avoir une autorité honnête, il faut encore que vous soyez au clair avec ce péché vous-même. Ce faisant, vous allez d'ailleurs vous améliorer, et puis aussi, vous acquérez une finesse pour parler de ce péché, car peut-être que vous le connaissez vous-même. Enfin, il vous faut désirer, et c'est peut-être le plus difficile, uniquement le bien de la personne, c'est-à-dire il faut désirer la correction, il faut désirer que les choses s'améliorent, et il ne faut pas désirer la punition. Vous n'êtes pas les « qui suis-je » pour juger, vous n'êtes pas là pour démolir vos frères, vous êtes là pour les reconstruire. Alors il vous faut agir en fonction de cette finalité impérative qu'ils vivent. Voilà, mes bien chers frères, quelques conseils pratiques que je vous recommande de mettre en œuvre. Monsieur l'abbé me dit tout à l'heure, mais alors est-ce que même les paroissiens vont nous faire des corrections fraternelles après votre prédication ? Mais oui, c'est possible. C'est tout à fait possible de faire une correction fraternelle, même si normalement, habituellement, c'est d'abord nous entre nous. Mais les paroissiens aussi peuvent corriger leurs prêtres. Comme on parle à un père, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas en l'attrapant sur le parvis, en lui mettant un petit coup à la sortie de la messe alors qu'il vient de célébrer. Non, c'est pas comme ça qu'on fait une correction fraternelle, hein. C'est que sinon, vous n'avez rien entendu. Et bien sûr, vous allez, comme vous feriez avec votre propre père, vous nous invitez, vous nous soignez, vous nous chouchoutez, vous nous, etc. Et après, délicatement, vous acquérez l'autorité, quoi. Hein, la charité, et vous dites, j'ai pas très bien compris ça, voyez. Comme on fait délicatement, exactement comme vous feriez avec votre père. Mais avec un prêtre, c'est possible. Alors voilà, je vous laisse avec ça, monsieur le curé. Moi, c'est pas grave, je suis pas ici d'habitude. Mais je dirais la même chose à mes paroissiens, hein, pour faire bonne mesure. Ne vous inquiétez pas. Les uns les autres, nous allons nous aider vraiment à aller vers le ciel. Croyez bien que ce n'est pas accessoire et ce n'est pas une occupation. C'est le moyen que nous aurons pour nous retrouver tous, autant que nous sommes ici, au paradis. Ainsi soit-il.